Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le Club des idées d'Europe Soir qui se poursuit, 19h52, on est en direct avec maintenant un coup de rétroviseur qui fait écho évidemment à notre débat du Club des idées sur le temps de travail. Chaque soir, on prend du recul, on plonge dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Bonsoir Olivier Samin.
Bonsoir Julien.
Alors, avant l'arrivée hypothétique de la semaine de 4 jours dont on parlait avec mes invités, il y a eu les 35 heures. On l'évoquait, c'était sous Jospin en 97.
Oui, et je vais vous parler d'un souvenir personnel, l'un des moments qui, avec le recul, ont marqué ma vie de journaliste. Nous sommes le 10 octobre 1997, conférence sociale à Matignon, Jospin, Aubry et Strauss-Kahn reçoivent les partenaires sociaux pour leur présenter la copie du gouvernement sur cette promesse emblématique de la campagne des législatives. Le président du CNPF, Jean Gandoua, est confiant, il connaît bien Martine Aubry et il est persuadé que le gouvernement n'ira pas en force sur la question des 35 heures. Et patatras, vers le milieu de l'après-midi, les 100 journalistes présents dans la cour, dont votre serviteur, voient débouler sur le perron Jean Gandoua, rouge de fureur.
L'idéologie a triomphé de la raison, malgré tous les avertissements que nous avons donnés. La décision de l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures a été prise par le Premier ministre. Nous avons été bernés tout au long de la journée. Il va sans dire que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre. Nous allons nous battre jusqu'au bout contre une mesure qui est très mauvaise pour l'emploi, très mauvaise pour l'Europe et pour l'euro, et qui était bien entendu très mauvaise pour le dialogue social.
Alors dans la foulée, Jean Gandoua démissionne de la présidence du CNPF, laissant la place à Ernest-Antoine Sellière.
Le CNPF, faut peut-être le préciser, c'est le MEDEF.
Voilà, ben justement. MEDEF. Et Ernest-Antoine Sellière, l'année suivante, va changer le CNPF en MEDEF avec un lobbying acharné contre les 35 heures et il utilisera un slogan « Tout le monde ne chausse pas du 35
». Alors le patronat est vent debout et en face les syndicats qui accueillent favorablement cette réforme.
Oui, un syndicat en tout cas, la CFDT, dont la réduction du temps de travail est une revendication très ancienne, revendication satisfaite en partie par une première loi votée en 96, la loi de Robien sous Jacques Chirac, qui encourage la signature d'accords dans les entreprises. Nicole Notat, la secrétaire générale de la CFDT, s'appuie sur les résultats de cette loi pour pousser les 35 heures.
Depuis toujours, le patronat se dit opposé résolument à la réduction de la durée du travail. Mais sur le terrain, nous venons de vous le démontrer, 1500 accords, ce qui veut dire 1500 entreprises, sont entrées dans la dynamique de la négociation, dans la dynamique qui fait de la réduction de la durée du travail le moyen d'un compromis positif entre les besoins de l'entreprise et les besoins d'ouvrir les entreprises aux chômeurs. L'efficacité est du côté de ceux qui font la démonstration que ça marche.
Alors la première loi sur les 35 heures va très vite voir le jour, une loi incitative dans la veine de la loi de Robien. Le 19 mai 1998, elle est adoptée à l'Assemblée nationale et dans l'hémicycle, Martine Aubry a le sentiment d'avoir écrit une page d'histoire.
Ce 19 mai marque une nouvelle conquête pour les salariés et pour la société tout entière. Alors, je vous en prie, maintenant que cette loi est votée, sortons de notre frilosité, sortons de ce scepticisme qui rend la France ne pas être à la hauteur de ce qu'elle a été dans son histoire. C'est vrai, ce mois de mai est un bien joli mois de mai.
Ça, c'est donc le vote de la première loi qui pousse les entreprises à négocier. Une deuxième loi Aubry sera votée l'année suivante, le 14 décembre 1999. Et là, c'est l'instauration des 35 heures comme nouvelle durée légale s'appliquant à toutes les entreprises.
Le gouvernement Jospin proclame que l'instauration des 35 heures va donc permettre de créer des centaines de milliers d'emplois avec le recul. Est-ce que c'est ce qui s'est passé, Olivier ?
Éternel débat. Déjà, en 1999, écoutez, on avait droit à une bataille de chiffres. Pour Ernest-Antoine Sellière, c'est un flop.
Pour l'instant, cette loi a créé 15 000 emplois, c'est-à-dire moins de 1 pour 1000 des salariés du secteur privé. C'est une réalité extrêmement décevante, dont nous ne sommes pas du tout heureux, mais dont nous ne sommes pas surpris. Nous l'avions dit, les 35 heures ne créent pas d'emplois.
À l'Assemblée, Martine Aubry fait une analyse radicalement différente.
La réduction du temps de travail crée des emplois. Beaucoup, beaucoup d'emplois. Avant, on le disait, enfin nous le disions. Maintenant, on le sait, mesdames et messieurs les députés, les engagements de création et de maintien des emplois atteignent aujourd'hui 125 000.
Alors, qui dit vrai, Olivier ?
Mais il y a bien une étude, quelques années plus tard, de la DARES, hein, la direction des études statistiques du ministère du Travail, évaluant à 350 000 le nombre d'emplois créés par les lois Oubry, vous en parliez tout à l'heure, mais beaucoup d'économistes contestent cette évaluation et affirment qu'au contraire, les lois Oubry ont empêché la création d'emplois en dégradant la compétitivité des entreprises.
Merci Olivier Samin pour cet éclairage avec les archives d'Europe 1.